bonsoir à tous. Vous écoutez Radio Campus Tour. Bienvenue dans Parasol et Bord de Loire, notre quotidienne estivale. Et ce soir, en studio, il y a avec moi Rudy. Bonsoir Rudy.
Bonsoir.
Alors, tu es notre super stagiaire et voilà, tu as pris l'audace aussi de venir dans le studio pour poser des questions à notre invité qui est Simon Proust. Bonsoir Simon Proust.
Bonsoir.
Alors, de la musique avant toute chose et nous allons parler ce soir de l'orchestre des jeunes du centre. Simon Proust, vous êtes à la tête de cet orchestre ?
Tout à fait.
C'est ça. Et alors, quand même, avant de parler d'orchestre, on peut quand même peut-être dire un mot sur votre parcours. Alors, c'est un peu bateau comme question dans les émissions, mais j'avoue que j'ai été intriguée parce que j'ai vu sur le site de France Musique une citation donc de Simon Proust. Je pense que c'est le bon. Je dois avouer que plus je dirige et moins je sais à quoi sert un chef d'orchestre. Alors, évidemment, ça rend curieux ce genre de phrase. Est-ce que vous voudriez peut-être la remettre en contexte et expliquer pourquoi vous avez pu dire ça ?
Alors, ça me fait beaucoup rire que vous sortiez cette phrase qui date déjà un peu, puisqu'il y a 2-3 ans. Et on m'avait dit à l'époque, tu vas voir, elle va faire parler et tu vas en entendre parler pendant longtemps. Et je vois encore qu'elle marche. En effet, il y a une information importante dans ce que vous venez de dire. S'il faut la remettre dans son contexte et dans le contexte du paragraphe qui suit, évidemment, elle a été mise un peu en exergue pour faire parler. En fait, je voulais simplement expliquer que quand on commence la direction d'orchestre, ou même quand on a plein d'idées reçues sur ce métier, sur cette activité-là, qui sont magnifiques, et que plus je pratiquais cette activité, et plus je me rendais compte qu'en fait, le rôle du chef d'orchestre, tel que je l'imaginais quand j'étais petit, qui était plutôt celui de, caricaturalement, bouger les bras devant un groupe, en fait, ce rôle-là, c'était plus du tout celui-là, et que le rôle d'un chef d'orchestre, je m'interrogeais beaucoup plus, et c'est pour ça que j'ai pu dire, moi, je sais à quoi, en fait, de quoi est fait ce métier. Et je découvrais qu'il y avait plein de tiroirs, plein de portes encore à ouvrir et que c'était pas du tout que ce qu'on voit en fait et n'est que peut-être la phase que l'on voit de l'iceberg par exemple et qu'en dessous il y a une quantité de choses invisibles.
Bon, merci pour cette explication, mais ça n'en dit pas beaucoup plus en fait. C'est quoi le métier de chef d'orchestre puisque c'est pas agiter les bras devant un nombre variable de musiciens, c'est quoi alors ?
Pour le définir, je pense que il y a deux expressions que j'aime bien utiliser, c'est d'être un peu un rôle de passeur. C'est comme ça en tout cas que je me définis et que je sais que je ne suis pas le seul à définir ce métier comme ça. C'est un passeur entre une partition, une œuvre et un orchestre, et un ensemble de musiciens. Et surtout entre une partition et un public et entre l'orchestre et le public. Je me vois un peu comme celui qui est un peu au milieu, un peu le médiateur qui doit faire le lien entre tout le monde. Et surtout le plus important je pense dans ce métier, c'est de faire en sorte que les musiciens jouent ensemble et généralement qu'on aille tous dans la même direction. Et ça, c'est peut-être le cœur du métier, et ce qui est, à mon avis, le plus difficile. En tout cas, c'est ce que je découvre, et c'est ce que je trouve vraiment le plus difficile, et en même temps le plus passionnant et le plus excitant, parce qu'il faut vraiment trouver, avec chaque groupe, chaque partition, peut-être la manière, la méthode, pour mettre tout le monde ensemble. Voilà en quoi consiste, je pense, le vrai métier de directeur d'orchestre.
Merci Simon Proust, je me tourne, oui je te vois Rudy, je me tourne vers toi puisque tu es musicien il me semble. Alors est-ce que tu veux nous dire toi, quelle idée tu te fais d'un chef d'orchestre ?
Alors moi j'ai souvent entendu c'est vrai dire que ouais un chef d'orchestre c'est quelqu'un qui bouge les bras, ça sert pas à grand chose. Mais non pas du tout, j'ai eu la preuve donc parce que j'ai travaillé avec lui il y a quelques temps. Mais non c'est pas juste bouger les bras parce que on voit quand même que surtout Simon se démène quand même dans ce qu'il fait. Et que oui, voilà, donc il s'est fait pour marquer les temps, pour montrer hop, qui c'est qui rentre, qui c'est que... C'est vraiment très important. Et puis c'est presque un travail de réalisation aussi, en fait, à la fin du compte. Parce que c'est... Voilà, il transforme une œuvre en spectacle, en fait. Et il l'interprète, il fait interpréter la musique par un orchestre qu'il dirige. Donc c'est quand même hyper important parce qu'un orchestre en soi ne peut pas faire ça tout seul. Il y a besoin de quelqu'un qui dirige et donc c'est le travail. Voilà.
Ça vous fait plaisir, Simon Proust, que dire Rudy ?
J'aime bien l'expression, la part d'interprétation en tout cas, elle est effet très importante. Et le mot spectacle, en effet, c'est quelque chose. Alors on peut reprocher ça à certains chefs en tout cas, mais une partition, elle est là pour vivre. Et en fait, en effet, pour moi, une partition, c'est comme une pièce de théâtre.
Oui.
Et donc il faut la mettre en scène. Et c'est un peu aussi le rôle, oui, comme le travail de réalisateur aussi. C'est d'ailleurs des domaines. Souvent, on compare un metteur en scène à un chef d'orchestre, un réalisateur à un chef d'orchestre. L'expression maintenant être un peu le chef d'orchestre de tel projet, on peut l'appliquer à beaucoup, beaucoup de choses, et notamment à la réalisation au cinéma et au théâtre. Donc, en effet, ça me parle beaucoup, et c'est là-dedans, en tout cas, qu'on essaye, dans cette direction-là, qu'on essaye d'aller.
Bon, on imagine l'idée d'agencer des sons, des voix, même d'instruments, mais il y a aussi de travailler avec des humains. Et ça, oui. C'est, j'imagine qu'au-delà du rendu sonore, enfin que pour l'oreille, il y a aussi sûrement un énorme travail de faire travailler les gens ensemble, peut-être qu'ils ne se connaissent pas toujours. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez toujours sur un ensemble de musiciens que vous connaissez ? Peut-être pas. Donc comment on fait cette magie, en fait ?
Alors, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'humains. Et je pense que c'est notamment la phrase que vous avez, par laquelle vous avez commencé. C'est là-dessus que plus je pratique ça, plus je découvre cette partie humaine. Et qu'en fait, la musique, c'est pas une partie infime de ce métier-là, mais elle est beaucoup en dessous. C'est d'abord de l'humain, et en effet, on arrive devant plein de groupes, plein d'ensembles. Notamment, on parle du projet avec Rudy, donc on a fait il y a quelques semaines. Moi, je connaissais absolument aucun des choristes, des chanteurs qui étaient là. Je connaissais l'orchestre, c'était l'ensemble que j'ai créé, donc beaucoup de musiciens que je connaissais. Mais il a fallu qu'on trouve en quelques semaines, quelques mois, voire quelques heures, en fait, une connexion et une façon de mettre tout le monde ensemble. Il faut s'adapter, en fait. Il faut être assez curieux et prêt à tout, parce qu'avec certaines personnes, il faut user de l'autorité, par exemple. Il faut l'avoir par l'autorité. D'autres, il faut l'avoir par la bienveillance, par la gentillesse, par la séduction. Il faut aussi beaucoup écouter ce qui se passe en face, et puis c'est un peu un rôle de manager et de chef d'équipe où il faut faire avec les profils des uns et des autres, avec les forces et les défauts des uns et des autres, pour que même les défauts se transforment en qualité. En tout cas, on essaye. C'est pas toujours simple, mais c'est ça aussi qui est sympathique, c'est qu'il n'y a pas un projet qui se ressemble.
Alors, un chef d'orchestre, c'est aussi stratège et comédien.
Exactement, exactement. En tout cas, la partie comédie, il ne faut pas la voir. Si...
Non, sinon c'est qu'on n'est pas un bon comédien.
Voilà, mais stratège, oui. Ça, oui, on prépare une stratégie avant chaque répétition ou chaque concert, oui, bien sûr.
Peut-être juste, si vous voulez, l'un ou l'autre, repréciser de quel événement vous avez parlé, parce que nous n'étions pas là, tous.
Parler un peu de ce qui est du concert, de l'ensemble.
Oui, voilà, parce que justement, Rudy, tu as évoqué...
Donc c'était une pièce de Jenkins, c'est ça ?
Oui. Voilà.
On a interprété, on était pas mal de choristes quand même sur scène, je sais plus, quelques centaines quand même.
Vous étiez 120 et le deuxième groupe, il y avait 250.
Oui, voilà. Donc c'était un rassemblement de plusieurs lycées de Tours, donc il y avait Saint-Ursule, Paul Ucourier, Descartes, et je crois que c'était tout pour nous.
J'ai peur d'en oublier, mais on va dire que c'est tout. Il y avait un bout de Marmoutier aussi, il y avait un chœur de femmes de Marmoutier.
Voilà,
pour le tout expliciter.
On est accompagné par un orchestre avec percussions, bref, un grand ensemble. Il y avait aussi des cordes frottées, bref, franchement, en plus des bons musiciens quand même, on peut le dire.
Ils étaient pas mauvais, ils venaient partout, voilà. Et ils avaient beaucoup de plaisir à venir jouer ça. Voilà,
voilà, bah, nous aussi c'était un plaisir en tout cas, parce qu'interpréter avec des pros comme ça, c'était... chanter avec des pros comme ça, c'était bien. Et puis on était donc à l'espace Malraux, donc une belle salle en plus, et puis c'était en mai.
C'était en mai dernier.
Je sais plus la date exacte, mais voilà quoi. Je sais pas trop comment on peut en parler plus.
Pour rebondir là-dessus, justement, on parlait d'humains. Voilà, moi, les musiciens, vous ne les connaissiez pas. Le chœur, en tout cas, ne les connaissait pas. Eux non plus ne connaissaient pas. Et fallu faire en sorte que sur scène, tout le monde aille dans la même direction.
Oui, puis ça doit être dur aussi de se retrouver devant un bon nombre de choristes et de musiciens comme ça tout seul contre tout le monde.
Ça, en fait, c'est pas plus compliqué d'être devant 10 personnes que devant 300. 10 personnes, ça peut être extrêmement impressionnant parce qu'en fait, ils vous scrutent, ils vous regardent dans les yeux, alors qu'un grand groupe, en fait, on regarde une masse, pardon, mais en fait, 10 personnes, c'est très intimidant. Et en fait, à partir d'un certain nombre, on ne voit plus la différence, parce que ne serait-ce qu'en termes de lumière, par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, je ne voyais pas combien il y avait de rangs de choristes. Donc, ce qui est pratique, en fait, on en voit 2-3, puis en fait, il y en a 10, mais on ne voit plus tellement le nombre. Mais en tout cas, la méthode ne change pas, qu'il soit 10 personnes ou 300, la méthode, elle, ne change pas. La seule chose qui change, c'est peut-être qu'on va parler un tout petit peu plus lentement pendant la répétition, on va parler un peu plus fort, mais c'est des petits détails. Mais le reste, la façon de travailler, en tout cas, elle est la même.
D'accord.
Voilà.
Est-ce qu'on peut dire, Simon Proust, que vous avez une affinité avec le public jeune ? Parce que là, quand même, Rudy, j'imagine, des chorales de lycée. Et pour faire un lien subtil, évidemment, avec l'orchestre des jeunes du centre, est-ce que c'est un public qui vous intéresse plus qu'un autre ?
Je ne sais pas s'il m'intéresse plus qu'un autre, mais c'est celui par lequel j'ai commencé. Donc il y a un vrai attachement en tout cas à travailler avec des jeunes musiciens, parce que je peux encore me considérer comme jeune, même si de moins en moins, je le suis de moins en moins, mais je suis encore jeune dans le métier, et j'ai tout de suite travaillé avec des orchestres de jeunes, avec des élèves, des étudiants, des amateurs aussi, qui étaient dans des grandes écoles à Paris. Et puis, quand on est jeune chef, on est souvent appelé par les orchestres professionnels pour faire des concerts pédagogiques, des concerts pour le jeune public. Et donc, c'est un lien que j'ai depuis maintenant quelques années et que je continue à avoir avec vraiment grand plaisir. Et ça oblige beaucoup plus qu'avec un public, en tout cas d'adultes, en tout cas un public de mélomanes, puisque avec des jeunes, il faut faire attention à tout, il faut transmettre beaucoup plus, il faut faire attention à chaque détail pour essayer qu'ils soient intéressés et qu'ils aient envie après de revenir dans l'avenir.
Alors, évidemment, c'est un peu de la provocation, mais est-ce qu'on peut dire que le... Comment essayer de formuler ça de façon diplomate ? Est-ce qu'on refourgue l'éducation culturelle, l'éducation musicale aux jeunes chefs ou aux jeunes musiciens ou aux jeunes journalistes d'ailleurs aussi ? Est-ce que c'est un truc qui se refourgue aux plus jeunes ? Et si oui, pourquoi ?
Alors, refourguer, je ne sais pas. Mais en effet, non, la question ne manque pas de diplomatie. Non, c'est vraiment ça. En fait, je pense que c'est pour beaucoup d'orchestres, ils envoient des jeunes chefs sur ce genre d'événements parce que c'est des événements qui sont moins médiatisés, qui sont... C'est pas moins important, mais les enjeux sont moins grands. Et ça nous permet aussi, nous, de rencontrer les musiciens, rencontrer les orchestres et faire un peu nos preuves. Et en fait, si on passe cette marche-là, après, on peut nous confier des choses plus grandes, avec peut-être plus d'exposition dans des plus grandes salles, avec un autre public. Et je pense que pour le journalisme, c'est pareil. On envoie des jeunes journalistes sur des sujets qui ne sont pas forcément faciles, d'ailleurs. Il faut en faire quelque chose de bien et ce n'est pas forcément évident de couvrir un événement qui n'est pas, en soi, passionnant. Je pense que tout le monde l'a connu dans ce métier-là et pour nous, c'est la même chose. Et refourguer, je ne sais pas. Par contre, une chose qu'il faudrait peut-être, mais beaucoup de chefs le font quand même, beaucoup de directeurs musicaux, il faudrait que des grands chefs et des chefs reconnus, en tout cas, aussi mettent les mains dans ce genre de concert-là, parce que le jeune public a besoin de voir des grands chefs et des grands orchestres aussi dans ce genre d'événements. Et ça se fait de plus en plus. Pour être honnête, on voit que ça se transforme et que ce qu'on appelle l'action culturelle, en fait, et la partie médiation et action culturelle dans les orchestres, augmente. Le temps consacré à ces événements-là augmente énormément. Et ce qui est forcément une bonne chose, parce qu'on parle du jeune public, mais il y a aussi un public beaucoup plus âgé dans des maisons de retraite, il y a aussi des actions dans des hôpitaux, dans des maisons sociales. Les orchestres aussi, maintenant, vont sur ce terrain-là. Il n'y a pas uniquement les jeunes, mais il y a aussi toute une partie pour aller toucher une population qui peut-être ne peut pas se déplacer, ne veut pas se déplacer, ou peut-être pense que la musique n'est pas faite pour elle. Et cette partie-là augmente, et il n'y a pas que des jeunes chefs qui s'y intéressent maintenant, heureusement, d'ailleurs.
Alors cette partie-là augmente, est-ce que c'est parce qu'il y a des prises de conscience, parce qu'il y a des musiciens ou des chefs qui clairement ont envie en fait d'assurer cette mission-là, ou alors parce que c'est une obligation qui vient de plus haut ?
Il y a un peu de tout. Bien sûr, les missions ont bougé. Il y a des consignes qui viennent d'au-dessus. Les institutions missionnent les orchestres pour aller faire cette partie-là. Et puis il y a aussi vraiment de la part des musiciens, notamment d'une génération un petit peu plus jeune qui vient de rentrer dans les orchestres là, qui est une génération un peu trentenaire, cette volonté là, je pense, d'aller toucher un nouveau public et de sortir un petit peu des salles de concert et de faire un peu, parce que c'est vrai, quand on est toutes les semaines dans la même configuration, on va faire nos répétitions puis le concert en fin de semaine, bon, c'est très bien, on est dans de très bonnes conditions, ça peut être très confortable, mais la routine fait qu'on a envie d'aller voir d'autres choses et peut-être de se mettre un tout petit peu en danger, et les chefs suivent. Il y a beaucoup aussi de chefs qui soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui aiment aussi cette peut-être prise de risque. Alors bien sûr, parfois c'est moins agréable, parfois c'est moins facile, bien sûr, mais on savoure d'autant plus parfois le fait de revenir à la maison dans des vraies conditions. C'est vraiment des choses qui sont maintenant extrêmement présentes dans les bureaux et dans les têtes des musiciens, des orchestres actuellement.
Alors vive la médiation.
Bon, je pense qu'on peut le dire, oui.
Ça vous est arrivé peut-être de voir des jeunes gens que vous avez croisés sur un concert ou sur une, et de les retrouver peut-être un peu plus tard et disant « j'ai continué, je me suis orienté vers la musique, je veux être musicien ». Est-ce que ça arrive ? En même temps, comme vous le soulignez tout à l'heure, vous êtes encore jeune, mais est-ce que ça arrive déjà des fois de croiser des gens comme ça ?
Ça arrive, et je peux raconter une petite anecdote qui est liée d'ailleurs au projet qu'on a fait nous autour de l'Ode de Jenkins il y a quelques semaines. Il se trouve qu'il y a 10 ans, quasiment jour pour jour en fait, avant ce projet-là, en 2009, la première œuvre que j'ai dirigée, c'était Adimus de Carl Jenkins, qu'on a donné 10 ans après à nouveau, au même endroit d'ailleurs, avec les mêmes lycées. Et moi, à cette époque-là, je sortais tout juste du lycée, j'avais 18 ans, et dans les choristes, dans l'orchestre, il y avait des jeunes musiciens, élèves du conservatoire. Et il se trouve que quand on a, sur les réseaux sociaux, quand on a commencé à faire de la communication sur le concert il y a quelques semaines autour de la même œuvre, 10 ans après, eh ben, j'ai eu pas mal de messages de jeunes musiciens qui étaient à l'époque dans l'ensemble, dans leur chœur, dans l'orchestre, que je connaissais moi à l'époque pas du tout, parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi sur scène, et qui m'ont dit, qui se souvenaient de ce moment-là. Alors est-ce que c'est ça qui leur a donné envie de continuer? Je ne sais pas, il n'y a peut-être pas eu que ça. Mais ça fait partie des concerts qui m'ont moi beaucoup marqué, mais qui ont aussi marqué beaucoup de monde. Et pour peut-être faire la transition avec l'Orchestre des Jeunes du Centre aussi, il se trouve que dans les jeunes du centre, il y a depuis 10 ans, on en voit beaucoup et on en recroise beaucoup qui, après, se souviennent de tel ou tel moment, tel ou tel concert. Ils se disent, bah, c'est des petites choses qui font que ça m'a donné envie de continuer, donné envie après de passer à l'étape d'au-dessus ou d'en faire peut-être mon métier plus tard.
Alors, avant de parler, parce que quand même, on va bien finir par en venir au fait, avant de parler de l'orchestre École Éphémère, je propose que nous fassions une pause musicale et Simon Proust, vous pourrez nous dire après de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on a écouté. De nos fabuleux studios, vous écoutez Parasol et Bord de Loire et notre invité Simon Proust. Alors Simon Proust, est-ce que vous voulez nous dire quelle est cette musique que nous venons d'écouter?
Eh ben, il s'agit tout simplement d'une création mondiale qu'a fait l'Orchestre des Jeunes du Centre en 2017. Il s'agit d'une œuvre d'Alessandro Solbiati qui s'appelle Evidi Quattro Stelle. Voilà, c'est une pièce un peu particulière puisque c'est un concerto pour percussion au pluriel. Puisqu'il y avait donc autour de l'orchestre, on avait 5 percussionnistes, un grand jeu de timbales avec une partie un peu plus traditionnelle de timbales, mais qui était ce qu'on appelle des parties de timbales concertantes. Et puis il y avait autour de l'orchestre, vraiment autour, spatialisé en comme un carré, 4 percussionnistes avec un énorme matériel autour d'eux. Et je pense qu'on a pu pas mal les entendre dans l'enregistrement que vous avez passé.
Alors cet enregistrement, il a été réalisé où? Il y a combien de musiciens qui jouent? Parce que je suppose que bon, déjà vous vous en souvenez, mais à l'oreille, vous devez entendre tout ça.
Oui, alors en fait, c'est une version de concert qu'on a faite à la cathédrale d'Orléans en juillet 2017. Donc autour de ces 5 percussionnistes solistes, il y avait environ 80-85 musiciens qui ont joué cette création, en présence du compositeur bien sûr qui était là. Alessandro Solbiati avait fait le déplacement bien entendu pour travailler avec nous, et c'est cette version là, on l'a jouée 3 fois en juillet 2017, et c'est la version de la cathédrale d'Orléans. Et vous pouvez trouver sur notre site internet une version vidéo qui permet d'apprécier d'autant plus l'œuvre quand on voit les percussionnistes jouer et on voit l'orchestre se démener autour de cette pièce contemporaine qui était assez délicate.
Et alors, vous disiez tout à l'heure pendant cet extrait que vous étiez étonné qu'on passe un extrait à la radio. Pourquoi ?
Parce que je salue le fait de pouvoir passer à une heure comme ça, à 18h, de la musique contemporaine, une création mondiale. C'est quand même suffisamment rare pour être souligné. Je tiens à féliciter votre programmation.
Voilà, bon, ben merci. Voilà, c'est bien les compliments, faut pas les bouder, donc merci. Alors, une autre citation, alors cette fois-ci, elle date de 2018, hein, c'est pas une vieille citation de 2016. Et donc, les orchestres de jeunes sont souvent la première étape vers la professionnalisation d'un jeune musicien d'orchestre. C'est un métier qui ne s'apprend vraiment que sur le terrain. Ce n'est qu'au milieu d'un pupitre, de violon et derrière les cuivres que l'on devient musicien d'orchestre. Alors, c'est encore une citation France Musique. Merci France Musique. Simon Proust, est-ce que vous voulez, pareil, remettre en contexte cette citation ? Et je pense que c'est une bonne introduction pour parler quand même du sujet qui vous amène aujourd'hui à Radio Campus Tours, c'est-à-dire l'orchestre. Alors, j'ai toujours un moment de solitude parce que c'est pas l'orchestre région centre, à chaque fois, je sais jamais le dire, orchestre des jeunes du centre, voilà.
Voilà. Alors, pour rebondir sur cette citation, qui est d'ailleurs extrait d'un très bel article de France Musique sur les orchestres de jeunes, où ils ont interrogé pas mal d'acteurs d'orchestres de jeunes, différents orchestres de jeunes en France et en Europe, d'ailleurs. Voilà, ce petit passage vient de là. Et c'est vrai qu'on est on s'est rendu compte, mais c'est pas nouveau, mais que le métier de musicien d'orchestre, on peut beaucoup en parler avec des musiciens en cours d'instruments, dans des petits ensembles qu'on peut faire en conservatoire, mais réellement ça ne s'apprend que quand on est dans une salle de répétition au milieu d'un orchestre. C'est là vraiment où on apprend la discipline, on apprend comment il faut jouer en orchestre, parce que c'est pas du tout la même chose de jouer en soliste dans sa chambre ou même en soliste sur une salle de concert et dans un orchestre. Et vraiment, rien ne remplace la répétition, et c'est ce moment-là où on apprend. Alors parfois, c'est des moments où il y a 1000 informations qui arrivent à la minute, mais après, on fait le tri une fois qu'on est chez soi, et c'est là où on apprend. On apprend aussi beaucoup de ses erreurs. Il faut beaucoup, beaucoup se tromper à l'orchestre pour comprendre comment ça fonctionne. Mais on apprend aussi la vie de groupe, tout simplement. C'est comme une équipe de foot. Je pense qu'on peut un peu apprendre la technique individuellement sur un terrain tout seul avec un coach, avec un sportif. Mais il n'empêche que pour travailler le jeu d'équipe, faut être sur le terrain avec l'équipe. Et c'est exactement la même chose pour l'orchestre. On ne peut pas apprendre tout par vidéo ou par conférence ou par cours théorique.
C'est rassurant, peut-être.
Oui, heureusement d'ailleurs.
Alors peut-être qu'on peut en parler de ce fameux orchestre. Qui est-il ? D'où sort-il ? Depuis quand existe-t-il et à quoi sert-il ?
Alors, l'Orchestre des Jeunes du Centre a été créé en 85 par Jean-Marc Cochereau, Éric Ruger et Claude-Henri Joubert. Il a été créé avant tout en fait, pour répondre aux besoins d'un festival lyrique, un festival d'opéra qui avait lieu à Loche à l'époque. Et je vous passe les différentes étapes, mais pendant une dizaine d'années, tout s'est très bien passé à ce niveau-là. Et puis ensuite, le festival a pris d'autres orientations et l'orchestre est devenu l'Orchestre des Jeunes du Centre à partir de 2001. Et il a pris une résidence au Conservatoire de Tours, où nous sommes toujours actuellement. Et voilà, l'orchestre a pris vraiment cette forme qu'elle existe, vraiment actuelle, la forme actuelle, en 2001, ce qui est celle d'un 15 jours de stage au mois de juillet autour d'un ou deux programmes symphoniques, ça dépend, avec pas mal d'œuvres qui étaient au programme, et puis une tournée de concerts, de 5-6 concerts, majoritairement en région centre. Voilà, l'orchestre a été dirigé par Jean-Marc Cochereau, qui l'a fondé donc jusqu'en 2010, jusqu'à sa disparition un tout petit peu brutale. Et puis ensuite, différents chefs se sont succédés. Sébastien Billard a assuré la direction en 2011, Christophe Migny en 2012, avant que Marius Tchegors, qui est l'actuel directeur musical de l'Orchestre d'Orléans, prenne la direction de 2013 à 2016. Et maintenant, moi, j'en assure la direction depuis 2017.
Bon, voilà. Rudy, est-ce que tu as des questions déjà sur cet orchestre ?
Non, ça a l'air plutôt clair pour l'instant.
Alors, attends, je me mets un coupé ici.
Non, pour l'instant, j'ai pas de questions. Non.
Alors, qui peut être aspirant à ce stage d'été ? Est-ce qu'on arrive comme ça, les mains dans les poches, ou est-ce qu'il y a quand même des conditions à remplir ?
Alors, des conditions, oui, on demande un niveau minimum, qui est un niveau de cycle 3 de conservatoire. Alors, c'est un peu, ça parle pas beaucoup comme ça, si on le dit, mais pour les jeunes musiciens qui sont dans des instructures, ça donne une indication. Ça correspond à peu près à 8 à 10 ans de pratique instrumentale avant cela, mais bien sûr, c'est très relatif, parce que certains peuvent aller très vite, et très vite atteindre ce stade-là, et puis d'autres vont avoir besoin d'un peu plus de temps pour avoir ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est le niveau minimum. Et puis, l'Orchestre des Jeunes du Centre, comme son nom l'indique, accueille majoritairement des musiciens de la région centre, mais également de toute la France. On a l'habitude de dire dans nos sélections, c'est à niveau égal la région prime, c'est-à-dire que voilà, quand on se retrouve avec des musiciens qui viennent de Lyon ou Paris face à des musiciens de la région centre, si le niveau est égal, c'est les établissements de la région centre qui orientent notre choix, quand il y a un choix à faire. Mais J'ai envie de dire, n'importe qui peut candidater, n'importe quel musicien peut candidater, et nous, après, on étudie chaque candidature et on choisit les musiciens en fonction des besoins. Et par exemple, cette année, on a un musicien qui vient de Tunisie, on a une Allemande qui vient, voilà, pour des pays étrangers notamment. Et puis, on a des musiciens qui viennent de, notamment de la région de Lyon, de Bordeaux, de Nantes, beaucoup, Lille, Paris, Strasbourg également, enfin voilà, un peu de toute la France, mais avec beaucoup de gens qui viennent de, notamment de Blois, d'Orléans et de Tours. Nous sommes les trois conservatoires qui approvisionnent le plus l'Orchestre des Jeunes du Centre.
Alors comment ça s'inscrit dans une carrière de musicien, de jeune musicien, cette participation à l'Orchestre des Jeunes du Centre?
Alors en fait, c'est très complémentaire de la pratique d'orchestre qu'ils peuvent avoir dans l'année, lors des cours au conservatoire, parce que tous les conservatoires, normalement, ont un orchestre qui leur permet de travailler justement ensemble. Et nous, on est un petit peu complémentaires, c'est-à-dire qu'on vient leur apporter souvent des conditions qu'ils ne peuvent pas avoir en conservatoire. En conservatoire normal, c'est très compliqué d'avoir 80-85 musiciens. Et donc, ça offre un répertoire, ça offre la possibilité de jouer des œuvres qu'ils ne peuvent pas jouer dans les conservatoires. Donc, c'est pour ça que c'est très complémentaire des pratiques orchestrales qu'ils peuvent avoir dans l'année. On est là un petit peu comme un... vraiment quelque chose de en plus, on va dire, un petit bonus. Et c'est vrai que quand ils rentrent après dans leur conservatoire l'année suivante, généralement ils ont beaucoup grandi, ils ont beaucoup appris, et ça leur donne envie de peut-être de continuer dans cette voie-là. Et ça leur offre vraiment une pratique très intense, parce qu'il faut imaginer que pendant 15 jours, on est à 8 heures par jour minimum, voire plus parfois, on est plutôt proche de 9 heures parfois, voilà, pendant 15 jours. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures derrière l'instrument, mais on apprend énormément. Peut-être en 15 jours d'Orchestre des Jeunes du Centre, on peut presque résumer ça en un an de travail en fait, qu'on fait en 15 jours.
Donc c'est du très concentré. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur le programme qui a été établi pour ces... puisqu'il y aura aussi des concerts. Alors, quelles œuvres vous avez choisies et comment et pourquoi vous les avez choisies?
Alors, l'an dernier, on avait axé le programme autour de la jeunesse, avec Ma Mère Loi notamment, des choses comme ça, et des contes musicaux. Là, cette année, on a été plutôt vers la couleur, et vers des, comment on pourrait appeler ça, des histoires en musique. Notamment avec une œuvre emblématique qui sont les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski dans la version de Maurice Ravel, qui est peut-être l'œuvre emblématique pour parler des couleurs et pour parler des couleurs orchestrales. Comment Ravel, notamment, qui a pris une partition pour piano de Moussorgski pour la transcrire à l'orchestre, a justement donné un éclat vraiment, on va dire, mirifique, magnifique, sublime à cette œuvre, en utilisant toutes les richesses de l'orchestre. Et puis autour de cela, on a trois œuvres, alors, qui sont particulières, qui se tiennent parce que ça raconte que des histoires d'amour qui finissent très mal. Voilà, on est des jeunes musiciens très joyeux, mais il n'empêche que la musique a beaucoup d'intérêt pour ces histoires, ces tragédies qui se terminent généralement mal, et notamment Roméo et Juliette de Tchaïkovski, donc une ouverture de 20-25 minutes qui résume, entre guillemets, l'histoire de Roméo et Juliette, où vraiment l'orchestre raconte l'histoire. Vraiment, l'orchestre est là pour narrer toute cette aventure avec le combat dans la rue, cette rencontre entre Roméo et Juliette, cette tension, cette violence, aussi ces sentiments qui sont exacerbés, et puis cette fin dramatique absolument horrible. Et puis après, il y aura un tout petit intermezzo de Puccini qui vient de Manon Lescaut, encore une histoire absolument horrible, une histoire de passion un peu déchirante. Voilà, c'est 4-5 minutes de musique qui sont absolument magnifiques, bouleversantes. Et puis la dernière œuvre vient du Cid de Massenet, qui est un opéra donc de Massenet écrit au 19e siècle, et qui raconte bien sûr l'histoire du Cid de Corneille, qu'on connaît tous. Et dans cette histoire-là, dans cet opéra, il y a une suite de ballets. Il fallait à l'époque, c'était la tradition pour l'Opéra de Paris, qui est toujours un ballet au milieu de l'opéra. Et donc Massenet a fait une suite de danse, évidemment pour parler du Cid, qui sont très espagnolisantes, avec des couleurs espagnoles, avec des castagnettes partout, des instruments très colorés. Et c'est une suite très rythmique, très dansante, mais qui est autour d'une histoire quand même qui se termine assez mal, avec le Cid.
Alors la couleur musicale, tiens, c'est intéressant ça. Peut-être qu'on n'est pas dans la synesthésie, mais est-ce que vous voulez nous expliquer, surtout pour nos auditeurs qui ne seraient pas musiciens en plus, qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous entendez justement par la couleur de la musique?
Alors ça va être très compliqué à expliquer rapidement, mais on peut essayer. On associe très souvent, et Olivier Messiaen, qui est un grand organiste et compositeur du XXe siècle, a écrit tout un traité autour de cela, autour des couleurs et de la musique. Pour lui, alors je ne sais plus comment s'appelle c'est pas une maladie, mais cette particularité d'associer immédiatement des couleurs à des notes ou des notes à des couleurs d'ailleurs.
Oui, c'est ça,
c'est la synesthésie, c'est ça, voilà, j'ai un petit doute. Et donc l'orchestre en tout cas c'est une somme de sonorités et qu'on peut vraiment associer à une palette de peinture. Comme le peintre va mettre telle couleur avec telle couleur pour créer un tableau le plus harmonieux possible, en tout cas à ses yeux, un compositeur a cette possibilité-là d'associer les timbres les uns avec les autres. Un timbre de, on a l'impression souvent de, on peut dire que par exemple le mariage de son d'une flûte et d'une clarinette, ça donne un son très feutré, où quand les deux sont parfaitement coordonnés, on ne sait plus qui est qui, on n'entend plus une flûte et une clarinette, on entend un son un petit peu nouveau. Quand on entend un ensemble de cuivres, par exemple, qui jouent ensemble, il y a quelque chose de très homogène. Et ça, alors, bien sûr, on peut pas dire que c'est du bleu ou du vert, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on peut vraiment associer les timbres au vocabulaire d'un peintre. Et c'est ce qui se passe dans les tableaux d'une exposition de Moussorgski, où Ravel, en fait, a vraiment, on peut dire comme si Ravel avait peint l'œuvre ou avait mis en couleur une œuvre pour piano avec les instruments de l'orchestre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais le travail du cerveau est un peu le même que quand on associe les couleurs, on associe les timbres instrumentaux ensemble.
Rudy, qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée de musique en couleur, de musique ?
Eh ben, moi, je trouve que je suis plutôt d'accord. Mais il n'y a pas que cette histoire justement de timbre, de sonorité, il y a aussi cette histoire simplement de notes aussi. Plusieurs notes donc forment un accord et forment donc une sonorité encore différente. Et donc c'est ce mélange de timbres, de notes qui à la fin ça fait un tableau, donc exactement comme, ouais, comme il vient de le dire. Et voilà, rien d'autre vraiment à ajouter. Si, tout à l'heure je pensais, par rapport à quand vous parlez d'une histoire, comment vous faites justement pour raconter une histoire avec la musique ? Comment vous faites pour qu'un orchestre interprète une histoire en musique ?
Ça, c'est pas évident. Alors, l'œuvre nous aide, la partition nous aide. Oui. Une partition qui est bien écrite va nous aider à raconter. Alors, ça permet de rebondir aussi sur... C'est pas ça fait de la couleur, mais ça découle un peu de tout cela. Il se trouve qu'on associe aussi beaucoup les instruments à des caractères. Il y a des symboles, et notamment, c'est Hector Berlioz qui a théorisé ça au 19e siècle dans un grand traité d'orchestration d'instrumentation. Et pour lui... mais il n'était pas le seul à l'époque, les instruments peuvent avoir une symbolique, ce qu'on appelle la symbolique des instruments. Alors pour en donner quelques-uns des très simples, la clarinette, c'est souvent associé à la femme, en tout cas au sentiment féminin, caractère féminin. Le hautbois est très souvent associé à quelque chose de pastoral, à quelque chose qui a rapport avec la nature. Voilà, et puis le cor anglais par exemple, qui est un hautbois un peu plus grave, est toujours associé à la passion, à quelque chose de souvent dramatique d'ailleurs ou tragique, mais la passion. Et grâce à ces petits, là j'en donne quelques-uns, mais évidemment chaque instrument chez Berlioz a une symbolique, a une histoire à raconter, et en associant tout cela, en fait on peut presque raconter une histoire ne serait-ce qu'avec les instruments, peu importe les notes qu'ils jouent en fait, ne serait-ce que le timbre des instruments et la symbolique qu'ils représentent peuvent raconter une histoire. Et à l'opéra notamment, par exemple, on peut faire l'expérience, notamment dans tous les grands opéras du 19e siècle, si on écoute uniquement l'orchestre, on peut presque se passer du texte et se passer de la mise en scène, et on sait à peu près s'il y a une femme ou un homme qui va rentrer en scène, si c'est plutôt une scène dramatique, une scène d'amour, ou un duo, une rencontre qui est en train de se passer sur scène. Les instruments sont là pour peindre cette histoire, raconter cette histoire. Et au ballet, pour les ballets, les chorégraphies, comme il n'y a pas de parole, les compositeurs étaient obligés d'utiliser ce code-là. Et alors bien sûr, c'est instinctif, on n'a pas forcément conscience de tout cela, mais quand on y pense, après en fait les partitions peuvent devenir très limpides. Alors tous les compositeurs n'utilisent pas cette technique-là, bien sûr, heureusement, parce que sinon ce serait extrêmement systématique et un peu dommage, mais quand on a ces petits codes-là, ça permet parfois de mettre en lumière... on va dire les quelques aspects de l'intrigue, pour parler par exemple de Roméo et Juliette de Tchaïkovski, pour évoquer le combat de rue entre Tybalt et Mercutio, si ma mémoire est bonne. Il met beaucoup de mouvements dans l'orchestre avec des cordes qui jouent des mouvements extrêmement rapides, donc ça crée une agitation dans l'orchestre. Et pour montrer les coups d'épée, ou en tout cas le duel qui se passe, il va mettre tout l'orchestre à l'unisson, des gros accords très secs, très courts, et qui va faire des espèces de ta-ta-ta-tam, comme les épées qui s'entrechoquent. Et pour donner la couleur métallique, il va juste mettre des coups de cymbales exactement en même temps. Et à l'aveugle, si on ne sait pas ce qui se passe, je pense qu'on pourrait demander à n'importe qui. Ça évoquerait en tout cas quelque chose de très violent. Après, un combat ou pas, ça c'est plus compliqué, un duel, ça c'est plus compliqué à définir. Mais voilà un exemple d'une scène typique où en quelques secondes, il arrive à montrer cette agitation et cette violence. Et juste après, pour montrer la rencontre entre Roméo et Juliette, il va justement avoir un thème très lyrique, très chanté, très beau, mais qui va confier pas à n'importe qui, il va le confier au cor anglais, et on l'a dit tout à l'heure, le cor anglais c'est la passion. Il va confier ça, voilà, un thème extrêmement expressif à un instrument qui est connoté passionnel et qui va donner ce petit bonus qui va nous permettre d'illustrer la rencontre entre Roméo et Juliette. Voilà, mais on pourrait en parler des heures sur le programme, parce que tout le programme qu'on a construit est comme ça. Donc il y aurait des romans à faire immenses sur cette symbolique et cette peinture en musique.
Ben ça tombe bien, vous reviendrez alors si vous
fait
voulez
plaisir.
Faire une émission autour de ces questions. Et alors, puisqu'il est question de concert, je crois qu'on peut annoncer à nos auditeurs qu'il y a peut-être des dates où ils peuvent aller voir, justement, écouter et voir ces fameux concerts. Alors, est-ce que vous voulez nous les rappeler ?
Oui, alors nous serons invités le 11 juillet au Festival de Chambord, un grand festival en région centre, où nous jouerons les œuvres de Massenet, de Puccini et de Tchaïkovski. Et puis il y aura quelques petits bonus aussi avec des pièces pour cuivre, pour percussion, mais ça je ne vais pas trop en dire plus, il faut réserver aussi quelques surprises. On redonnera le même programme le lendemain, le 12 juillet, au Château d'Amboise. Voilà, et puis ensuite il faudra attendre la semaine suivante, où nous serons le jeudi 18... jeudi 18 à la cathédrale d'Orléans, le 19 à l'hôtel de ville de Tours, le samedi 20 à Richelieu, et pour finir le dimanche 21 après-midi à la cathédrale de Blois, si je ne me trompe pas dans les dates.
Et si on veut mettre toutes les chances de son côté pour aller voir ces concerts, est-ce qu'il faut réserver des places? Est-ce qu'il faut les acheter? Est-ce qu'on vient comme ça et...
Alors, à part pour les festivals, donc c'est-à-dire pour Amboise, pour Chambord et pour Richelieu, il faut réserver les places, sinon l'entrée est libre, que ce soit à Tours, à Blois et à Orléans, l'entrée est libre. Donc évidemment, il est conseillé d'arriver tôt pour être bien placé, et l'hôtel de ville de Tours d'expérience ne peut pas accueillir tout le monde, donc il est conseillé vraiment d'arriver quasiment 45 minutes avant. On ouvre en tout cas les portes 45 minutes avant, exprès pour pouvoir accueillir le maximum de monde.
Alors, une question, parce que nous sommes sur une radio, et je reviens un peu en arrière, pardon, mais est-ce que vous imaginez que vous pourriez faire une programmation musicale pour une radio, avec l'idée que vous proposiez tout à l'heure, c'est l'idée de Berlioz que vous développiez tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez imaginer un concert radio, en fait ?
Complètement. C'est un format, en fait, qui existait au temps de l'ERTF, où d'ailleurs l'orchestre de la radio était destiné uniquement à cela. C'est une forme qui, je pense, a un peu disparu, je crois, enfin j'en suis même sûr. Mais au contraire, ce serait vraiment, je pense, passionnant de la remettre en place. Des gens comme Jean-François Zigel, notamment, ont fait ça, ont monté cela à Radio France et sur France Télévisions un petit moment, dans ce qu'ils appelaient les clés de l'orchestre, je crois. Et c'était un peu ce format-là. C'est des choses qui, je pense, font beaucoup de bien et à l'orchestre et au public et à la radio aussi, parce que ça permet vraiment d'offrir une partie où on découvre, il y a une découverte en tout cas de ce répertoire-là, il y a une partie un peu médiation bien sûr, et puis de montrer un peu l'envers du décor, les coulisses. Voilà, en montrant peut-être par les coulisses des grandes œuvres par la petite porte, et ça je pense que c'est vraiment un format qui a de l'avenir, en tout cas qui doit retrouver, je crois, sa juste place et sa juste valeur.
Rudy, est-ce que tu écouterais une programmation de ce genre-là sur une radio associative étudiante locale ?
Oui, j'écouterais avec plaisir, oui, parce que...
Bonne réponse.
Non, mais simplement parce que, oui, on entend beaucoup donc de programmation, enfin de musique diffusée, mais juste comme ça, alors qu'un concert, tout de suite, même si on ne le voit pas, on peut le ressentir même à travers une radio. Il y a toujours quelque chose en plus, le direct, le truc qui passe, c'est pas vraiment explicable en fait, mais il y a toujours une différence entre un enregistrement fait presque en studio donc, et un concert vraiment diffusé comme ça pour la radio, fait exprès, et ouais, je pense que c'est une très très bonne idée même de remettre ça un petit peu en place, ouais.
Et bien pourquoi pas sur votre antenne en tout cas,
voilà,
je peux vous proposer cela.
Il faut faire appel à l'équipe d'antenne parce que Campus c'est une institution démocratique. Et donc,
nous ferons appel.
Voilà, je ne prends pas les décisions toute seule, je tiens à le rappeler. Mais oui, pourquoi pas, après Je crois que l'idée intéressante, c'est l'idée de l'ici et l'ailleurs, parce que même pour les musiciens, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on a pu faire une expérience avec des comédiens qui jouaient au Volapük, donc la compagnie Jabberwock, et qui en même temps étaient sur nos ondes. Donc ça veut dire qu'ils sont conscients qu'ils jouent ici, dans un endroit, dans un lieu physique, mais que quelque part, par le truchement des ondes, ils sont entendus, écoutés, on ne sait pas où. Et en plus, on ne sait même pas qui écoute. On ne sait pas qui écoute, on ne sait pas comment les personnes écoutent. Est-ce qu'elles font la vaisselle en même temps? Est-ce qu'elles écoutent religieusement? Est-ce qu'on sert de fond sonore ou est-ce que les gens vraiment écoutent? Est-ce que ça se fond en fait dans autre chose? Je crois, enfin, de mon point de vue, évidemment, je ne suis pas objective puisque je suis du côté radio, je trouve ça fascinant. Et c'est vraiment une question que j'aime poser aux musiciens, aux comédiens. Pourquoi pas aux danseurs d'ailleurs, comment vous imagineriez un concert radio, oui.
En fait, pour imaginer une forme, c'est un peu compliqué parce que chaque œuvre est différente, je pense. Chaque orchestre et chaque œuvre surtout est différente, mais c'est justement peut-être la programmation, en tout cas l'œuvre qui doit nous guider sur la forme que cela pourrait prendre, parce que on l'a vu par exemple une œuvre très narrative comme là, on peut faire dans quelques semaines. Là, il y a vraiment un vrai travail à faire sur... qui serait, je pense, intéressant pour un public qui est derrière son poste de radio, c'est de découvrir comment l'œuvre raconte et raconter justement en musique. Avec une programmation, peut-être une symphonie par exemple beaucoup plus classique, que ce soit de Mozart, de Beethoven par exemple. Là, on peut moins parler d'histoire parce que l'histoire, elle est boum, il n'y a pas une réelle narration derrière, donc il faudrait imaginer quelque chose d'autre. Mais il y a plein de choses imaginables parce que cette musique-là regorge d'influences. Voilà. Et puis avec, il y a énormément par exemple de musique de Bartok, de Shostakovich ou des choses comme ça qui s'inspirent de musique populaire. Là, il y a un lien évident qui serait possible, c'est évidemment, et ce qu'on fait peu dans les salles de concert, c'est de faire entendre cette musique populaire dans sa forme originale, et ensuite comment elle est utilisée par les grands compositeurs dans la musique symphonique, par exemple. Ça, c'est des choses que, je pense, en France, on est non pas en retard, mais on a un peu oublié ça, et que pour avoir été 2 ans en Grande-Bretagne, notamment en Écosse, la BBC fait, et la BBC garde encore ce format-là, et j'ai le souvenir d'un concert autour de musique norvégienne, l'orchestre a fait venir un groupe de musique populaire traditionnelle norvégien et qui ont joué des airs traditionnels, et juste après on entendait de la musique norvégienne symphonique où on prenait évidemment et très clairement les influences. Tout cela a été diffusé sur la BBC évidemment, et je crois que la BBC a vraiment une longueur d'avance. En tout cas, ils n'ont pas perdu cette habitude-là que nous, on a peut-être mis un peu de côté pour d'autres choses qui sont sûrement passionnantes, mais la BBC en tout cas garde cette curiosité. Il y a beaucoup beaucoup de programmes outre-Manche, qui mettent en valeur justement ces concerts radiophoniques où on donne des clés, on donne un peu des petits conseils d'écoute et des clés d'écoute aussi pour que chacun puisse profiter au maximum de ce qu'ils entendent.
Eh bien, bon entendeur. Merci Simon Proust d'être venu nous présenter l'Orchestre des Jeunes du Centre. Toutes les informations se retrouvent sur le site, je crois.
Exactement.
Alors, comment le trouve-t-on, ce site? Comment s'appelle-t-il?
Tout simplement www.ojc.fr. Et vous aurez toutes les informations, aussi les noms des musiciens, les biographies de toute l'équipe pédagogique, parce que l'Orchestre des Jeunes du Centre, c'est pas uniquement un chef, il y a toute une équipe aussi autour. Et voilà, toutes les informations sont là, il y a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos aussi qui vous permettent de découvrir les coulisses et aussi tous, vraiment qui on est et qui est l'Orchestre des Jeunes du Centre.
Merci à toi aussi, Rudy, d'être venu dans cette émission.
Bien de rien.
Et voilà que Mathilde nous rejoint en studio. Mathilde, qu'avais-tu à nous dire?
Eh oui, avant de terminer cette émission, j'ai une petite information à communiquer à nos auditeurs. Puisque aujourd'hui est la date de l'annonce officielle de la programmation du festival Quartier Libre 2e édition, et donc organisée par Novedo y Cinco, l'asso événementiel de Radio Campus Tours. Le festival Quartier Libre revient les 4 et 5 octobre prochains, et c'est une date à retenir pour vous, chers auditeurs. Ça aura lieu au Parc Saint-Radegonde à Tours, avec 3 scènes, des spectacles d'art de rue, des DJ sets, des beatmakers, des débats, conférences, ateliers pour petits et grands. Et bien évidemment, on y sera avec Radio Campus pour un plateau en direct, plein d'interviews et bien plus encore. Et donc, je vous le disais à l'instant, c'est aujourd'hui, cet après-midi même, il y a quelques minutes, que Novedo y Cinco a annoncé sa programmation officielle du festival sur la page Facebook de l'événement. Et donc, vous y retrouverez sur la première scène, la scène principale, la fine équipe de l'électro-rap hip-hop, La Chimba, donc un groupe local qui nous fait de la cumbia. Guts, donc un groupe de Lyon avec les Aracas de Scoville pour du jazz, funk, tropical, groove, hip-hop, tout ça dans un seul et même groupe. Mutoni Drummer Queen qui nous vient du Kenya et qui nous fera part de son afro-rap électro. U-Star de l'écurie Chinese Man Record avec Miscellaneous pardon, de les Tourangelo de Chill Bump. Donc pour du hip-hop, les Lehman's Brothers pour donc leur afro-groove funk soul. Raccoon, DJ électro-dub de Lyon. Et enfin, Jojo et Lieutenant Nicholson qui font de la chanson reggae soul afrobeat. Et donc ça, c'est pour la scène principale, puis ensuite, vous avez deux scènes avec des groupes un peu plus locaux, et notamment le Raoul Jazz Clan, Les Mauvaises Herbes, Tic Tac, le Temps c'est de l'argent, ça c'est une conférence, Dika, le DJ, Les Oiseaux du Continent Plastique en spectacle, une conférence du rêve, et puis plein d'autres choses, évidemment. Vous pouvez retrouver tout ça, donc je vous l'ai dit, sur leur page, la page Facebook de l'événement qui s'appelle donc Quartier Libre Festival, et puis nous, bien évidemment, avec Radio Campus, étant partenaire de l'événement, nous repartageons tout ça, donc c'est également trouvable sur notre page Facebook. Voilà, c'était un plaisir de vous annoncer cette programmation en live sur les ondes de Radio Campus Tour. Tout de suite, pour vous donner envie et pour vous faire découvrir les artistes, on va vous faire écouter Mutoni Drummer Queen, dont je vous parlais à l'instant, qui fait partie de la programmation de la grande scène, avec Million Voice. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite sur les ondes.
Take it.